3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Pitchford est né à Honolulu le 29 juillet 1951, où il grandira et obtiendra son diplôme en 1968. Il débutera alors sa carrière d'acteur et de chanteur avec le Honolulu Community Theatre, puis le Honolulu Symphony Orchestra et finalement le Honolulu Theatre of Youth. Pendant ses études à l'Université de Yale, Pitchford jouera avec de nombreuses troupes de théâtre sur le campus, mais son attention se tournera progressivement vers le Worcester Square Revival, une compagnie de théâtre expérimentale qui offrait des opportunités aux toxicomanes et aux alcooliques en convalescence pour se reprendre en main grâce au métier d'acteur. En 1971, à New York, Pitchford sera choisi pour la comédie musicale Off-Broadway intitulée Godspell. C'est à ce moment qu'il fera la connaissance du réalisateur Bob Fosse, qui le choisira alors pour incarner Pippin dans le spectacle de Broadway du même nom en 1975. Par la suite, Pitchford jouera, chantera et dansera dans plus d'une centaine de publicités pour des produits tels que Dr. Pepper, McDonald's, Lay's et M&M's. Suite à ses premiers efforts d'écriture de chansons dans des cabarets autour de Manhattan, il sera invité à collaborer avec le compositeur Michael Gore sur le film Fame du réalisateur britannique Alan Parker en 1980. Il travaillera alors sur trois chansons, soit Red Light, la finale symphonique rock I Sing de Buddy Electric, ainsi que la chanson titre Fame de la chanteuse Irene Cara, qui remportera un Oscar, un Golden Globe ainsi qu'une nomination aux Grammy Awards pour la chanson de l'année en 1981. Cela lui permettra par la suite de signer avec Warner Brothers Publishing, où il commencera à collaborer avec divers auteurs-compositeurs tels que Tom Snow, Kim Carnes, Dolly Parton, Melissa Manchester, Michael Miller, Steve Perry et surtout Kenny Loggins, avec qui il écrira la chanson « What a Feeling » du film Flashdance. Suite à son succès avec Fame, Pitchford sera approché par de nombreux dirigeants de studios de films pour écrire davantage pour le cinéma. De là naîtra Footloose, qui deviendra alors un film à succès pour la Paramount en 1984. Par la suite, il travaillera avec le musicien Tom Snow sur le spectacle Footloose the Musical, qui sera alors réalisé par Walter Bobby et chorégraphié par A.C. Shiola, et qui ouvrira sur Broadway au Richard Rogers Theater le 22 octobre 1998, spectacle qui mettra en vedette Jeremy Kushner et Jennifer Laura Thompson dans les rôles-titres. Malgré les mauvaises critiques, le spectacle aura plus de 709 représentations et fermera ses portes le 2 juillet 2000. Pour ce spectacle, 10 nouvelles chansons seront écrites par Pitchford, car le nombre de chansons produites pour le film ne pouvait pas supporter la durée d'une production musicale complète de Broadway. Après avoir reçu 4 nominations pour les Tony Awards, la comédie musicale aura une nouvelle adaptation qui sera réalisée par Paul Carrison et présentée au Royaume-Uni au Theatre Royal de Plymouth en février 2004, où la pièce jouera plus de 3 semaines avant de se lancer dans une tournée nationale de 24 semaines. Une deuxième tournée nationale au Royaume-Uni débutera alors le 4 janvier 2006 au Wills Millennium Center dans la baie de Cardiff. Cette fois-ci, ce sera Karen Bruce qui s'occupera de la réalisation et qui dirigera alors les comédiens Cheryl Baker et Stephen Meghan. Finalement, le spectacle se rendra dans le sud de l'Angleterre et se conclura en Écosse. Par après, la production sera transférée dans le West End de Londres avec David Excess et Cheryl Baker dans les rôles-titres. Cette pièce débutera le 18 avril 2006 et se terminera en novembre de cette même année en raison de la disponibilité limitée du Novello Theatre. La production de Footloose the Musical entamera par la suite sa 3e tournée nationale qui s'ouvrira à Salford en janvier 2007 et se poursuivra jusqu'en juillet 2007 avec Lynn Paul. Ensuite, les acteurs sont retournés à Londres au Playhouse Theatre du 17 août au 6 décembre 2007, Lynn Paul gardant le rôle-titre. Plus récemment, une nouvelle adaptation sera alors créée et présentée en Angleterre en septembre 2017 au Peacock Theatre. Puis, une toute nouvelle production de la comédie musicale, qui sera cette fois-ci réalisée par Racky Blues, sera de retour pour une 4e tournée au Royaume-Uni et à l'International, dont la première aura lieu au Mag Hall de Zurich le 19 janvier 2022. Elle sera ensuite présentée au Royaume-Uni dans le Theatre Royal de Plymouth en février 2022 et fermera finalement ses portes en août 2022 au New Wimbledon Theatres. Ceci est donc la carrière de cet univers délirant qu'est Footloose, dont je couvrirai aujourd'hui les 2 longs-métrages cinématographiques dans cette édition musicale de Programme Double, soit la version originale de 1984 du réalisateur Herbert Rust, ainsi que son remake, qui, lui, a été produit en 2011. Donc, préparez-vous à confronter votre nouvelle paroisse afin de laisser aller vos talents de danseur dans ce programme double qui touchera à ces 2 productions des studios Paramount, dont l'œuvre originale fera naître une des plus grandes superstars de sa génération, Kevin Bacon.
This drive-in theater is radioactive. Now you can hear tonight's show on your AM car radio. Turn your ignition key to the accessory position. This will not drain your car battery. Now turn on your radio and zero in on the following AM station.
We hope you have a wonderful time. Come back soon.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Out of life. Go out to a movie.
Chicago, wow, man. So what do you do there?
We danced our asses off. Hey, you the new kid? You won't get any of that here.
What's that?
Dancing. There's no dancing. If our Lord wasn't testing us, how would you account for the proliferation these days of this rock and roll music?
So you really can't dance here, man.
Hey, you're playing it kind of loud, weren't you?
Yeah, is there a law against loud music?
Hmm. Let's watch that attitude, boy.
Hold over the state line. I want you guys to see what you've all been missing.
You just seem to be having a lot of trouble since you moved here. But it seems a lot of people are pointing a finger in your direction lately.
You know, I'm busting my balls trying to fit in here, and every door is getting slammed in my face.
Because I've heard he's a troublemaker.
Just because he hasn't lived in this town for 20 years doesn't make him a troublemaker.
He's been here, and you're going to try and throw a dance.
There was a time for this law, but not anymore. See, this is our time to dance.
Footloose, drame musical qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 17 février 1984. Ce film américain d'une durée de 110 minutes a coûté plus de 7 millions de dollars à produire et a amassé plus de 80 millions de dollars seulement sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Herbert Ross, lui qui nous avait donné les films True Colors, Funny Lady et The Secret of My Success. Les producteurs Craig Zadan, producteur américain qui nous avait donné The Banshee and Finn McGee, ainsi que Living Proof, et Lewis G. Rackmill, ce producteur américain qui nous avait donné les films Inspecteur Clouseau, 633 Squadron et Our Town. Du côté de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Dean Pitchford qui, lui, avait déjà écrit Cinderella, Frozen in Time et The Washing Machine Man. Au niveau de la distribution, on y retrouve Kevin Bacon, Laurie Singer, Diane Weist, John Lithgow, Chris Penn, Sarah Jessica Parker, John Laughlin, Elizabeth Gorsi, Frances Lee McCain, Jim Youngs et Timothy Scott. Un adolescent de Chicago, parti vivre avec sa mère dans une petite ville du Kansas, découvre que l'influence du pasteur local sur les édiles municipaux a permis d'interdire la danse et l'audition publique de musique rock. Mettant de l'avant l'idée d'une soirée dansante pour marquer la fin de leur année scolaire, le jeune homme ne tarde pas à se heurter à diverses oppositions, d'autant plus qu'il s'éprend de la fille du dit pasteur. Dean Pitchford, un parolier primé aux Oscars pour la chanson-titre du film de 1980 « Fame », se verra approché par de nombreux dirigeants de studios de films pour écrire davantage pour le cinéma. Mais toutes les idées qui lui seront proposées viseront à découvrir la musique de la manière la plus conventionnelle, l'écrivain cherchant plus une façon non traditionnelle de faire découvrir le monde musical à ses personnages fictifs ainsi qu'à l'auditoire. Désirant alors trouver une idée d'histoire qui sortirait des sentiers battus, ce sera en 1979 que Pitchford lira dans une édition matinale du samedi du Los Angeles Times un petit article sur la ville d'Elmore City en Oklahoma qui venait de lever une interdiction de danser en public vieille de plus de 88 ans, permettant ainsi au lycée local d'organiser son tout premier bal musical depuis 1891. Cette idée permettra alors à Pitchford de rédiger les grandes lignes de son projet avant de s'envoler pour l'Oklahoma afin d'y passer une semaine. Alors âgé de 29 ans, l'auteur parlera aux commerçants locaux ainsi qu'aux étudiants de la place et assistera aux réunions de prière et aux activités sociales communautaires de cette petite localité nord-américaine. Pitchford présentera son idée au producteur Dan Melnick qui, frappé par l'originalité du projet, nommera à titre de producteur le duo Lewis Rackmill et Craig Zadan, deux hommes étant associés à Melnick dans sa société IndieProd. La première ébauche du scénario, qui en résultera alors, sera achetée par la 20th Century Fox. Malheureusement, le projet languira pendant plus d'un an sur les tablettes sans être accepté par personne. Décidant finalement de ne pas adapter le script, celui-ci sera alors vendu par la Fox en moins de 24 heures aux exécutifs de la Paramount Pictures, qui demanderont alors plusieurs réécritures au scénariste Dean Pitchford, qui retravaillera son œuvre plus de 22 fois avant d'obtenir la version finale du script. Par la suite, Melnick, qui venait tout juste de remporter 4 Oscars en plus de la Palme d'Or au Festival du film de Cannes pour sa production de All That Jazz, qui fut réalisée par le metteur en scène Bob Fosse, cherchera à recruter le distingué réalisateur Herbert Rust, connu pour ses comédies musicales telles que Funny Girl, Funny Lady, The Turning Point et Pennies from Heaven. Bien que ces films à grande échelle n'aient pas grand-chose à voir avec le Top 40, l'expérience de Ross englobait ses racines fondamentales dans le rock, ayant travaillé dans les années 60 sur 2 grands films pop britanniques, chorégraphiant The Young Ones d'un côté et dirigeant les parties musicales de Summer Holiday de l'autre. Malheureusement, les négociations avec Herbert Ross échoueront, forçant le producteur exécutif à approcher le metteur en scène Ron Howard, qui dut refuser également, ce dernier travaillant sur la comédie fantaisiste Splash. Ce sera finalement le réalisateur Michael Cimino qui sera embauché par la Paramount Pictures pour réaliser son film, son premier projet depuis le cuisant échec de Heaven's Gate qui avait causé la fermeture des studios United Artists. Cependant, après plus de 4 mois de travail sur le film, le studio va licencier Cimino qui faisait des demandes extravagantes pour la production, notamment en exigeant plus de 250 000 $ supplémentaires pour réécrire lui-même le scénario, voulant rendre l'histoire plus sombre et beaucoup plus dramatique. Suite au licenciement du réalisateur, Melnick se tournera de nouveau vers Ross, qui acceptera cette fois-ci le contrat de réalisation. Immédiatement après avoir signé pour faire Footloose, Ross commencera à travailler avec le scénariste Dean Pitchford, peaufinant le script et ses séquences musicales. La vaste connaissance de Ross dans le milieu de la musique et de la danse, tant classique que contemporaine, fut essentielle au succès de cette production. Ce sera alors Lynn Taylor Corbett de l'American Ballet Theatre qui sera embauchée à titre de chorégraphe. Ce sera sa toute première expérience cinématographique, Taylor Corbett ayant créé des ballets aussi remarquables que Great Galloping Gottschalk, Equinox, Estuary et Ordinary Rhythms. Pour la distribution, les directeurs de casting furent impressionnés par l'acteur Tom Cruise en raison de la célèbre séquence de danse en sous-vêtements dans la comédie de mœurs Risky Business. Mais ce dernier n'était pas disponible, jouant à cette époque le rôle principal du film dramatique All the Right Moves. John Travolta sera également approché, mais ce dernier refusera le rôle. Rob Lowe sera par la suite auditionné 3 fois, possédant les capacités de danse et le look que désirait le réalisateur. Cependant, il subira une blessure durant sa dernière audition qui l'empêchera alors d'obtenir le rôle principal. Ce sera finalement l'acteur Christopher Atkins qui sera choisi pour incarner Ren, mais ce dernier perdra finalement son opportunité lorsqu'entrera en scène le jeune acteur Kevin Bacon. Ce sera le producteur Craig Zadon, fortement impressionné par le travail de Bacon sur le film de 1982 Dinner, qui découvrira que l'acteur était un danseur formidable, quoique sans formation. Bacon sera alors convoqué pour une rencontre avec Ross et Melnick et remportera, peu de temps après, le rôle de Ren McCormack. Immédiatement, le jeune acteur débutera un programme d'entraînement quotidien très intense avec Lynn Taylor Corbett pour se préparer physiquement au tournage et refusera même le rôle principal du film de John Carpenter, Christine, qu'il venait de se voir offrir. Après la signature de Bacon, le reste de la distribution se mettra rapidement en place et ce sans problème. Pour le rôle d'Ariel, celui-ci sera tout d'abord offert à la jeune actrice Daryl Hannah, qui choisira plutôt de jouer dans Splash du réalisateur Ron Howard. Elizabeth McGovern, elle, refusera également le rôle, décidant de jouer sous la gouverne de Sergio Leone dans le film de 1984 « Once Upon a Time in America ». Madonna et Avilene Morris ont également auditionné pour interpréter le personnage, mais ce sera finalement la jeune Laurie Singer qui avait fait ses débuts en 1982 à la télévision dans la première saison de la télésérie Fame qui obtiendra le poste. Diane Weist et John Lithgow seront les acteurs d'expérience de cette production qui réunira une panoplie de jeunes comédiens tels que Elizabeth Gorcey, Christopher Penn, Jim Youngs, Frances Lee McCain, Douglas Dirksen, Lynn Marta et Timothy Scott. Pour le personnage de Rusty, c'était la jeune actrice Tracy Nelson qui fut choisie à l'origine, mais lors de l'une des réécritures du scénario, le personnage fut quelque peu transformé et aura alors une personnalité beaucoup plus tapageuse et maladroite. Nelson, n'étant plus intéressée à ce personnage, elle se retirera du projet, laissant la place à la jeune Sarah Jessica Parker. Cependant, cette dernière faillit également se retirer de la production lorsque les producteurs lui demanderont qu'elle se coupe et se teigne les cheveux pour le rôle. Parker refusera car elle venait tout juste de se faire repousser les cheveux, elle qui avait dû les couper et les teindre en rouge pour interpréter le personnage d'Annie à Broadway. Quelques jours plus tard, les producteurs changeront d'avis et lui permettront alors de garder ses cheveux tels qu'ils étaient. Lorsque Dean Pitchford avait débuté son travail d'écriture du scénario de Footloose, il lui apparut rapidement que ce film ne devait pas être un musical style ancienne mode, mais plus un drame musical nouveau genre, style Flashdance, dans lequel les acteurs ne chantent pas à l'écran, mais que les chansons sont plutôt interprétées hors champ par des artistes différents. Pour la voix intérieure de son personnage principal, le scénariste avait toujours eu en tête le chanteur Kenny Loggins. S'étant rencontré sur l'écriture d'une chanson intitulée « Don't Fight It » pour le chanteur Steve Perry, Loggins se montra rapidement intéressé après avoir reçu l'une des premières ébauches du scénario de Pitchford. Avant de commencer le tournage au Utah, les exécutifs de la Paramount insisteront pour que Loggins et Pitchford se réunissent pour écrire la chanson-titre afin d'avoir au moins un démo disponible qui pourrait être utilisé durant le tournage. Cependant, Loggins aura un sérieux accident lorsque ce dernier, durant un concert, tombera de la scène et atterrira sur une caisse d'emballage, se cassant alors plusieurs côtes. Prenant quelques semaines afin de se rétablir et sur le point de quitter pour une tournée en Asie du Sud-Est, Loggins contactera Pitchford pour que ce dernier se rende à Lake Teo, où le chanteur devait donner un spectacle durant toute la fin de semaine. Profitant de l'occasion, les deux hommes travailleront alors pendant plus de 3 jours, écrivant les couplets et le refrain de la chanson-thème qui s'intitulera alors « Cheek to Cheek » avant de devenir « Footloose ». Cependant, la chanson ne sera terminée qu'après le retour de Loggins de sa tournée en Asie, ce qui fera en sorte que le démo ne sera pas prêt avant le début du tournage. Ce sera finalement la chanson « Johnny B. Goode » qui fut utilisée pendant le tournage des différentes séquences de danse. Lorsque la chanson « Footloose » sera terminée, la séquence sera alors montée minutieusement par les éditeurs de musique de Loggins. Le tournage principal débutera le 9 mai 1983. Le long-métrage sera d'ailleurs tourné à divers endroits du comté du Utah, principalement autour de la ville de Payson et de Leahy. Les scènes d'église seront filmées dans la ville d'American Fork et la scierie, utilisée pour la production, sera celle de Genève à Vineyard. Les scènes du drive-in seront, quant à elles, tournées à Provo, dans ce qui était alors le restaurant High Spot, restaurant qui fermera ses portes à la fin des années 1980, remplacé aujourd'hui par un magasin de pièces automobiles. De nombreux rôles de soutien seront alors interprétés localement et la majorité des danseurs utilisés pour la production provenaient d'institutions proches telles que l'Université Brigham Young, l'Université du Utah et le Sundance Theater. La richesse des talents locaux améliorera l'aspect réaliste du film et aidera fortement le réalisateur à capturer l'esprit de la population d'une petite communauté confinée du Midwest. Ce sera le réalisateur de la photographie Rick Waite qui sera embauché pour la mise en image de Footloose, ce projet étant seulement son 7e long-métrage commercial pour le grand écran. Cependant, le technicien n'en était pas à ses premières expériences, ayant photographié plus de 40 films de la semaine pour la télévision au cours des 5 années précédant Footloose. Ses autres productions pour le grand écran furent 48 Hours, The Long Riders, Tex, The Border avec Jack Nicholson et le succès au box-office de 1975, The Other Side of the Mountain. À ses côtés, le concepteur de production Ron Hobbs, qui avait travaillé sur des productions telles que The Deer Hunter, Pat Garrett et Billy the Kid, Killer Elite et Islands in the Stream, aidera à la création d'une ambiance réaliste qui permettra à Footloose d'obtenir sa popularité. Afin de se préparer pour son premier grand rôle en carrière, Kevin Bacon s'infiltrera pendant quelques heures en tant que lycéen au Payson High School de la ville de Payson. Cette expérience contribuera à convaincre l'acteur de 25 ans qu'il pouvait se faire passer pour un étudiant de 17 ans, donnant ainsi toute la crédibilité qu'il avait de besoin pour tenir le rôle. Du côté de la danse, seulement 10 % de la performance de Bacon nécessitera des cascades ou des danseurs, Peter Tram étant chargé de remplir les numéros de danse compliqués, alors que le consultant en gymnastique Chuck Gaylor sera utilisé pendant la scène de la barre horizontale. Pour sa scène de danse dans l'entrepôt, Bacon a déclaré qu'il avait eu 4 doublures, soit une doublure générale, une doublure en danse, ainsi que 2 doublures en gymnastique. Il est à noter que le danseur Peter Tram était marié à l'époque à la danseuse Maureen Jahan, qui fut la doublure des scènes de danse de l'actrice Jennifer Beals pour le film de 1983, Flashdance. Le jour du tournage de la scène au cours de laquelle Ren doit s'adresser au conseil municipal, l'acteur Kevin Bacon subira une crise d'urticaire à cause de sa nervosité à parler en public et dû être amené à l'hôpital. Pour les scènes où le personnage de Chris Penn devait apprendre à danser, ces dernières furent ajoutées au scénario parce que l'acteur ne savait vraiment pas danser. Quant aux pieds dansants du générique d'ouverture, ceux-ci appartenaient aux nombreux comédiens, danseurs et membres de l'équipe de production. Plus de 150 paires de pieds différents ont été filmés, le danseur aux chaussures dorées n'étant nul autre que le chanteur Kenny Loggins. La production se terminera en janvier 1984 sans véritables anicroches. Dean Pitchford contribuera à l'écriture des paroles de 9 chansons originales du film. Les notes de production révèlent que toutes les compositions, à l'exception de la chanson-titre, furent écrites après la fin du film, permettant ainsi à la musique ainsi qu'aux paroles de faire directement référence au personnage et à l'action du long-métrage. Pendant le tournage, le réalisateur Herbert Ross utilisera des chansons modèles qui reflétaient le type de musique requis par la scène, le musicien choisi composant par la suite une chanson originale au son similaire qui serait doublée dans la scène et synchronisée avec le visuel, comme ce fut le cas avec la chanson thème Footloose. Cette technique fut utilisée pour le tournage de tous les numéros de danse, et ce, sans exception. Pendant la scène où tout s'organise pour la danse, l'on peut remarquer que les acteurs chantent. En fait, ils rappaient, car Ross voulait que l'une des séquences soit un rap Footloose. Mais, après avoir vu l'expression du visage de Dean Pitchford durant le visionnement de la séquence, le rap fut rapidement abandonné. De plus, Ross voulait que la scène finale se déroule totalement au ralenti, mais durant la première projection test, il se rendra compte que la séquence était tout simplement interminable et le réalisateur changera alors d'idée. La décision fut donc prise de retourner la scène, mais cette fois-ci avec de nouveaux styles de danse qui y seront alors ajoutés. Il aura fallu plus de 250 000 $ additionnels pour refaire le tournage de la dite séquence, reshoots qui auront lieu seulement 6 semaines avant la première du film. Ce sera le monteur Paul Hirsch qui avait remporté un Oscar pour son travail sur Star Wars et qui avait précédemment travaillé sur The Empire Strikes Back, Sisters, Phantom of the Paradise, Obsession, Carrie, The Fury et The Black Stallion Returns qui obtiendra donc la tâche de monter le drame musical. Projeté dans plus de 1384 écrans à travers toute l'Amérique du Nord, Footloose amassera plus de 8,5 millions de dollars durant son tout premier week-end. Il finira au 6e rang au box-office nord-américain, amassant plus de 80 millions de dollars et se retrouvera derrière les films Ghostbusters, Indiana Jones and the Temple of Doom, Gremlins, The Karate Kid et Police Academy et terminera seulement 2,5 millions de dollars au-dessus de Beverly Hills Cop. Le producteur Dan Melnick fera un don de 2 % des recettes du film au People for the American Way, une organisation à but non lucratif qui militait en faveur du Premier Amendement et protestait contre la censure artistique aux États-Unis et contre les interdictions actuelles concernant la danse, les livres et les disques dans certains États nord-américains. Le film obtiendra 2 nominations aux Oscars dans la catégorie musique pour meilleure chanson originale, soit une pour Footloose et l'autre pour Let's Hear It for the Boy. Ce sera malheureusement I Just Called to Say I Love You du film The Woman in Red qui remportera l'Oscar, qui sera alors remis au chanteur Stevie Wonder. D'ailleurs, la chanson-titre de Footloose se classera 96e sur la liste Top 100 en 2004 des 100 meilleures chansons de l'AFI des 100 ans du cinéma hollywoodien. Le film aura également une nomination au Golden Globe pour la meilleure chanson originale pour la chanson-titre et sera également nominé pour le Grammy du meilleur album. Footloose deviendra par la suite un best-seller dans tous ses formats vidéo, de la cassette au format DVD ainsi que Blu-ray. CBS Records annoncera que 6 des chansons apparaissant sur la soundtrack du film avaient atteint le top 40 et que l'album s'était vendu à environ 5,3 millions d'exemplaires à travers le monde entier. De plus, l'album original, sorti en 1984, atteindra le numéro 1 du classement américain Billboard 200 le 21 avril 1984, position qu'il a conservée jusqu'au 23 juin de cette même année. Le 9 octobre 2001, le réalisateur Herbert Ross décédera d'une insuffisance cardiaque à New York. Quant à l'acteur Christopher Penn, frère de l'acteur Sean Penn, celui-ci fut retrouvé sans vie dans son appartement de Santa Monica le 24 janvier 2006 à l'âge de 40 ans. Une autopsie et un rapport toxicologique ultérieur réalisé par un médecin légiste du comté de Los Angeles révélera que la principale cause du décès était une maladie cardiaque. Le chef décorateur, directeur artistique et producteur de cinéma et de télévision américain Lewis Rackmill décédera le 19 février 1984 à Beverly Hills, en Californie. Quant au producteur Daniel Melnick, ce dernier décédera à sa résidence de Los Angeles à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer du poumon. Dans une entrevue accordée au Howard Stern en 2013, Kevin Bacon a admis qu'à chaque fois qu'il se trouvait dans une célébration style mariage, que la première chose qu'il faisait lorsqu'il arrivait sur place était d'aller voir le DJ afin que ce dernier ne fasse pas jouer la chanson Footloose durant la soirée, car tout le monde sur place s'attendait à ce que Bacon refasse la célèbre danse effectuée dans le film. En mars 2024, les étudiants de Payson High School demanderont à Kevin Bacon d'être présent pour leur bal de finissant, ce bal de finissant marquant la fin de l'histoire du Payson High School, l'école qui sera fermée pour être transférée dans un nouvel établissement. Du côté des points forts, eh bien Footloose est un film typique des années 80, un drame musical de qualité qui traite avec respect de son sujet par moments délicats où l'on peut assister au fossé qui existe entre les jeunes qui sont à la recherche de liberté et les adultes de la petite communauté qui, eux, cherchent à contrôler les mœurs de leurs enfants. De plus, le générique du début du long-métrage est original et nous plonge rapidement dans l'ambiance du film. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de scènes de danse ici, Footloose possède quand même un excellent rythme musical qui nous donne droit à une action soutenue et surtout des segments de danse fort réussis, notamment la scène de danse dans l'entrepôt. Bacon est très crédible dans son rôle et nous montre sans réserve ses talents de danseur. Le réalisateur utilise ici un style de mise en scène semi-documentaire, ce qui le différencie des autres films de l'époque tels que Dirty Dancing et Flashdance. D'ailleurs, Herbert Ross nous montre une mise en scène courageuse, n'ayant pas peur d'oublier la raison première de son sujet et sombrant dans le drame durant la seconde partie de son film, le tout remonté par moments par un humour naturel qui saura amuser l'auditoire. Du côté de la distribution, cette dernière est excellente, tout particulièrement John Lithgow, qui est très convaincant dans son rôle de pasteur et qui nous démontre ses grands talents de comédien. À souligner l'interprétation très réservée ici de la comédienne Diane Weist, qui sait prendre sa place sur l'écran au moment opportun, sans trop faire de clash. Footloose est un film possédant un message important sur la censure musicale et littéraire, cette dernière pouvant aller jusqu'à des gestes extrêmes n'ayant aucun sens, tels que de brûler des œuvres littéraires magistrales. Mais du côté des points faibles, eh bien, l'intrigue du scénario est si faible et superficielle, ne servant qu'à introduire les quelques segments de danse du long-métrage. D'ailleurs, par moments, Footloose oublie qu'il est un drame et se transforme soudainement en une sorte de vidéoclip, période fortement influencée par MTV aux États-Unis. Cela empêche le réalisateur de bien développer son histoire et au scénariste de vraiment bien nous présenter le clash entre la génération parentale qui cherche à protéger sa progéniture du soi-disant danger du rock'n'roll et de cette jeunesse qui ne cherche qu'à vivre celle-ci pleinement. De plus, les problèmes que rencontre le personnage principal ici sont élaborés d'une façon superficielle et rapide, ce qui empêche le long métrage de prendre son sujet trop au sérieux, ce qui réussit tout de même à passer à cause de l'excellente interprétation de Lithgow. D'ailleurs, la conclusion est trop rapide et tout rentre dans l'ordre avec une facilité déconcertante, ce qui nuit quelque peu au spectacle. De plus, la scène de danse finale, bien que spectaculaire, est beaucoup trop courte et pourrait laisser le spectateur quelque peu sur sa faim. Au final, Footloose est un film destiné au marché adolescent et pourrait être considéré ennuyeux pour ceux qui sont à la recherche de sensations fortes continues reliées aux séquences de danse, ces dernières étant peu nombreuses dans le film. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain James Steadman qui s'est occupé de réaliser la trame sonore du film, lui qui avait travaillé sur les trames sonores des films Rude Awakening, A Small Circle of Friends et The Confidence Man. Il est à noter ici que la trame sonore musicale instrumentale n'existe pas sur le marché, mais il vous est quand même possible de trouver ici toutes les chansons qui apparaissent dans le film sur deux trames sonores spécifiques, dont Footloose, qui avait été sorti à l'époque en cassette vidéo et en CD. Vous avez également Footloose, The 50th Anniversary Edition, qui a été distribué sur l'étiquette Legacy Record en 1998. Et finalement, vous avez également l'album Footloose, K2 HD Master, un CD qui est sorti le 21 octobre 2014 sous l'étiquette K2 HD Music.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
You got me wrapped up around your finger, 'cause I'm up to my neck in Apple Music on EE. It's literally coming out of my ears. What's the stream next? What's my jam? Pull back the river. How about a bit of Bay? Nah, I'm feeling Britney, baby.
Kevin? What if I told you about going through my wardrobe?
Oops, I did it again.
Get the music you love with 6 free months of Apple Music, only on EE.
That song is so 2000. Put my new one on.
Make me. Ooh, I love it. Is that your new outfit?
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
It looks like Broadway's found its next long-running musical hit, says Liz Smith. Footloose is magic.
Tonight I gotta cut loose, put loose.
The dancing is extraordinarily and heart-stoppingly fantastic. You'll have a hard time staying in your seat.
Everybody cut footloose.
A real knockout, the best single musical scene on Broadway. And Dennis Cunningham says Footloose is a wonder and a winner. Call Ticketmaster now.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
And now, on with the show.
Je m'appelle Ren. Ren McCormack.
Tu t'es pas fait charrier pour ta cravate ?
Non, mais la journée fait que commencer.
Ici, il y a une loi qui interdit aux mineurs de se réunir pour danser.
Arrête, c'est une blague. Alors vous faites quoi ? Vous vous traînez ensemble ?
Ouais, le reste on fait en douce.
Je ne veux pas que tu revoies ce garçon.
Pourquoi ?
C'est un fauteur de troubles.
Tiens pas la route, t'abandonnes ?
Excellent.
Le Seigneur nous met à l'épreuve. Et bizarrement, ça coïncide avec l'arrivée de Ren McCormack.
Je m'appelle Ren McCormack. Et au nom de la plupart des élèves de terminale du lycée de Beaumont, je demande l'abolition de la loi qui nous interdit de nous rassembler pour danser. Maintenant, à vous de décider. Mais vous n'arriverez pas à empêcher ça.
Footloose, un drame musical qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 14 octobre 2011. Ce film américain d'une durée de 113 minutes a coûté 24 millions de dollars à produire et a amassé plus de 63,5 millions de dollars à travers le monde entier. À la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Craig Brewer, lui qui nous avait donné les films Black Snake Moan et Dolomite Is My Name. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs Neil Marin, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Chicago, The Bucket List et Hairspray, Craig Zadon, ce producteur américain qui avait travaillé sur Sing, la version 2009 de Fahrenheit 451, If Looks Could Kill, et la version 1984 de Footloose, Dylan Seller, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Passenger 57, Valentine et The Starling, et finalement Brad Weston, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films One Chance, Not OK et A Million Little Pieces. Au poste de scénarisation, on y retrouve les scénaristes Craig Brewer, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios de The Poor et Hungry, Hustle and Flow et The Legend of Tarzan, ainsi que Dean Pitchford, ce scénariste américain qui avait travaillé sur le film de 1984 Footloose, Sing et Washing Machine Man. Dans la distribution, on y retrouve les acteurs Kenny Wormald, Julianne Hogg, Dennis Quaid, Andy McDowell, Miles Teller, Ray McKinnon, Patrick John Pfluger et Kim Dickens. À la mort de sa mère, un adolescent de Boston, adepte de gymnastique et de musique, est recueilli par son oncle et sa tante qui vivent dans une bourgade agricole en Géorgie sous la gouverne d'un conseil municipal ultra-conservateur. En effet, 3 ans auparavant, ce conseil a interdit le rock et la danse et imposé un couvre-feu aux mineurs au lendemain d'un terrible accident d'automobile qui a coûté la vie à 5 adolescents, dont le fils du révérend de la place, gardien de la morale de son comté. Le jeune Bostonnais cherchera alors à convaincre ses camarades de classe de faire renverser cette loi. Craig Zadon fit ses débuts à titre de producteur à Hollywood sur la version de 1984 de Footloose. Ce ne sera donc pas une surprise lorsqu'il sera approché vers le milieu des années 2000 pour que ce dernier planche sur le remake de son propre drame musical. Les exécutifs de la Paramount avaient alors déjà embauché le réalisateur Adam Shankman, qui venait tout juste de terminer son travail sur le film Hairspray. Zadon demandera alors à son partenaire de production, Neil Maron, de se joindre à lui et le duo approchera le producteur Dylan Sellers pour compléter leur équipe. Mais lorsque Shankman quittera la production, ce dernier sera alors remplacé en octobre 2008 par le metteur en scène Kenny Ortega, qui avait réalisé le film High School Musical. Ce sera alors l'acteur Zac Efron qui sera choisi pour le rôle-titre et les deux hommes commenceront à développer un scénario sans l'implication de Zadon et ses partenaires. Puis, en mars 2009, l'acteur Zac Efron quittera la production lorsqu'il se rendra compte qu'il ne voulait plus faire de comédie musicale, ne voulant pas être catalogué dans ce domaine. Peter Sollett sera alors embauché pour aider à conclure l'écriture du scénario et l'acteur Chase Crawford sera alors embauché comme remplaçant pour le rôle principal de Ren. Mais le réalisateur Kenny Ortega quittera le projet vers la fin de 2009 après des différends avec les exécutifs de la Paramount au niveau artistique et surtout au niveau budgétaire. Ce délai imprévu causera également le départ en avril 2010 de l'acteur Chase Crawford qui avait alors des conflits d'horaire avec ses dates de tournage entre sa série télé Gossip Girl et le remake de Footloose. Alors que le projet ne semblait aller nulle part, arrivera en scène le réalisateur des films Hustle and Flow et Black Snake Moan, Craig Brewer, qui fera alors un pitch à l'équipe de producteurs ainsi qu'aux exécutifs de la Paramount, qui impressionnera alors tout le monde, remettant le projet de film sur la bonne voie. Brewer ira alors rechercher le scénariste du film original, Dean Pitchford, avec qui il écrira une nouvelle version du script et plus de 8 nouvelles chansons qui s'ajouteront aux 4 chansons du film original qui seront reprises ici. Au niveau de la distribution, l'acteur Thomas Dekker, qui était apparu dans des séries télévisées telles que Heroes et Terminator de Sarah Connor Chronicles, fut longtemps l'objet de rumeurs comme étant celui choisi pour obtenir le rôle principal. Mais ce sera le 2 juin de 2010 que sera annoncé le choix surprise du jeune acteur Kenny Wormald. Âgé de seulement 25 ans, le jeune homme avait fait ses débuts en 2007 dans la nouvelle série de danse de l'actrice Jennifer Lopez, produite par la chaîne MTV et intitulée Dance Life, une série centrée sur la vie d'aspirants danseurs basée à Los Angeles. La série sera finalement annulée après seulement une seule saison. Provenant d'un background de danseur, Wormald dansait depuis l'âge de 6 ans, ce qui voulait dire que le réalisateur n'aurait pas besoin d'utiliser de doublure. Pour le rôle féminin, l'actrice Julianne Hogg, qui était une danseuse professionnelle du show de télévision Dancing with the Stars, avait été choisie pour le personnage d'Ariel par le réalisateur Kenny Ortega. Mais lorsque Brewer arrivera sur le projet, il la licenciera, désirant avoir sa propre distribution et non quelqu'un qui lui serait imposé. Les actrices Amanda Bynes, Miley Cyrus et Aiden Panettiere furent pressenties dans le rôle, mais Hogg, qui désirait absolument le rôle, reviendra à la charge et dut repasser une audition qui forcera alors Brewer à la réembaucher. Dennis Quaid et Andy McDowell seront par la suite embauchés pour interpréter les parents d'Ariel, alors que Miles Teller obtiendra le rôle de Willard Hewitt, un personnage qu'il avait déjà interprété dans une version lycéenne de Footloose the Musical. Quant à l'acteur Kevin Bacon, ce dernier fut approché pour interpréter le père de Ren, mais Bacon ne sera pas emballé par la façon dont était écrit son nouveau personnage dans le scénario et décidera alors de ne pas participer au projet, donnant cependant sa bénédiction au réalisateur. Après avoir embauché la directrice photo Amy Vinson, le chorégraphe Jamal Singh ainsi que la costumière Laura Jean Shannon, la pré-production se terminera en août 2010 et le tournage débutera en septembre de cette même année. Afin d'accentuer le contraste entre le personnage principal et la ville de Boston, la petite ville fictive sera déplacée du Utah vers la Géorgie. Cette décision fera d'ailleurs mieux ressortir la distinction entre ce qui est connu aux États-Unis sous le pseudonyme de « Red State » et « Blue State », afin de mieux favoriser la différence d'idéologie entre Wren et le révérend Moore. Avec un budget de plus de 24 millions de dollars, le tournage principal, qui se terminera deux mois plus tard, soit en novembre, aura lieu autour de la région métropolitaine d'Atlanta, dans les villes de Kenosha, Hiram, Senoia, Franklin, Dallas, Stone Mountain, Acworth et Covington. Pour la scène de salle d'audience, cette dernière sera tournée à l'intérieur du palais de justice historique du comté de Newton à Covington, qui fut conçu et construit en 1884. Il sera d'ailleurs construit sur le même site que l'ancien palais de justice du comté, qui avait passé au feu le 31 décembre 1983. Ce bâtiment fut ajouté au Registre national des lieux historiques le 18 septembre 1980. Pour les scènes ayant lieu à la maison d'Ariel et à l'église, celles-ci seront tournées au centre-ville d'Ackworth. D'ailleurs, ce sera le sanctuaire de l'église presbytérienne d'Ackworth et la maison du maire de l'époque, Tommy Halligood, qui seront utilisées pour le tournage. Pour la scène durant laquelle Ariel monte sur la voiture de Chuck, ce sera l'actrice Julianne Hogg qui réalisera elle-même sa cascade. Pendant la danse de la grange, des tonnes de confettis seront projetés par un souffleur sur la foule joyeuse. Malheureusement, les confettis devaient être coupés en carrés de 1/4 pouce. Ceux-ci tomberont alors lourdement sur le sol, forçant l'équipe de production à commander d'autres confettis à la hâte. Entre chaque prise, les confettis étaient balayés, aspirés et recyclés avec tout ce qui se trouvait alors sur le sol, ce qui fait qu'à la fin de la nuit de tournage, tout le monde était couvert de confettis sales et nauséabonds. Pour la trame sonore, le chanteur Kenny Loggins sera remplacé par le chanteur Blake Shelton afin de réinterpréter la chanson-thème du long-métrage avec un style beaucoup plus rythmé. Les experts prédiront alors que le drame musical rapporterait plus de 20 millions de dollars lors de son premier week-end d'ouverture. Mais les exécutifs de la Paramount ne s'attendaient, eux, qu'à un montant tournant autour des 15 millions. Ce sera finalement ces derniers qui auront raison, puisque le long-métrage, qui ouvrira dans plus de 3 549 cinémas en Amérique du Nord, n'amassera qu'un maigre 15,5 millions de dollars au box-office, se classant alors deuxième, tout juste derrière le film de science-fiction Real Steel, qui, lui, amassera plus de 16,2 millions de dollars. Cette sortie sera malheureusement inférieure à celle d'autres films de danse récents comme Save the Last Dance, Step Up, Step Up 3D et You've Got Served. Au final, cette nouvelle version de Footloose rapportera plus de 51,1 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et seulement 10,9 millions de dollars au niveau international, soit tout près de 20 millions de dollars en moins au global nord-américain que le film original de 1984. Les stars de cinéma Kenny Wormald et Julianne Hogg apparaîtront dans un épisode de Dancing with the Stars le 11 octobre 2011 et danseront alors sur les chansons Holding Out for Hero et Footloose de la bande originale du film avec Blake Shelton interprétant la chanson en direct. Au CMA Awards, Shelton fut rejoint par l'interprète original de Footloose, Kenny Loggins, pour chanter en duo la populaire chanson. Le 20 août 2018, le producteur Craig Zadon décédera à sa résidence de Los Angeles suite à des complications liées à une opération à l'une de ses épaules. Il n'était âgé que de 69 ans. Du côté des points forts, eh bien, ce remake est un bon upgrade de la version 1984, notamment avec son histoire beaucoup plus fluide que le long-métrage original et surtout par le fait que le personnage de Wren est ici beaucoup mieux travaillé au niveau de l'histoire. Tout comme le film original, les séquences de danse sont bien chorégraphiées ici et la musique est endiablée, nous donnant encore une fois un rythme d'enfer. Certaines séquences sont mieux travaillées ici, notamment la confrontation entre Ariel et son père et le rajout de la séquence de l'accident automobile au début du film, quoique non nécessaire, est tout de même un bon ajout à l'histoire. Quant à la séquence finale, celle-ci est bien mise en scène par le réalisateur et comprend des segments de danse bien tournés. De plus, le changement de l'histoire de fond, c'est-à-dire que Ren a assisté aux souffrances de sa mère et au décès de cette dernière à cause du cancer, apporte un lien beaucoup plus intéressant que la version de 1984 pour solidifier la conversation finale entre le révérend Moore et le jeune homme. La musique subit un bon upgrade, également mélangeant le rock avec un peu de blues et un peu de musique country. Mais, du côté des points faibles, bien qu'upgradé, ce remake est totalement inutile et n'amène vraiment rien de nouveau, le réalisateur nous montrant ici un grand respect à l'original, mais n'apportant pas assez de changements pour que cela en vaille la peine. La distribution est ici beaucoup moins bonne que le film original, manquant de charisme et de profondeur, notamment Dennis Quaid et Julian Hogg. Bien que la séquence de danse finale soit bien filmée, l'on ne peut pas en dire autant du reste du film, le metteur en scène choisissant par moments des plans douteux qui cachent certains segments de danse, ce qui nous enlève quelque peu le plaisir de les admirer. D'ailleurs, c'est fou de voir à quel point ces jeunes, qui vivent dans un endroit où la danse est interdite, être de si bons danseurs. C'est à se demander comment cela est arrivé alors que les parents sont supposés surveiller leurs enfants et que ces derniers ont un couvre-feu. Au final, on répète le film de 1984 presque plan par plan, avec beaucoup moins de vie et un peu plus d'énergie. Du côté de la musique, eh bien, c'est la compositrice américaine Deborah Lurie, elle qui avait travaillé sur Safe Haven, One for the Money, Prom, Imaginary Heroes et Sleepover, qui s'occupe ici de la musique instrumentale. Cependant, cette musique instrumentale, tout comme le film original, n'est pas sortie sur CD, mais vous pouvez quand même avoir accès aux différentes chansons du film sur la trame sonore qui est sortie sous l'étiquette Atlantic City le 23 septembre 2011, ou encore la Cut Loose Deluxe Edition, qui, elle, a été distribuée par l'étiquette Warner Bros. Records le 12 octobre 2011. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Footloose, version 1984, a été cotée 4 par Mediafilm. Je lui donne également une cote 4. La régie du cinéma a coté le film général. J'y vais également pour une cote pour tous. Du côté de Footloose, version 2011, eh bien, Mediafilm a donné une cote 5. J'y vais également avec une cote 5, un remake qui est beaucoup moins intéressant que le film original. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, eh bien, Footloose 1984 est disponible en DVD, en Blu-ray et en 4K, en français et en anglais. Vous avez également le film qui apparaît sur un coffret double avec Flashdance et il est également sorti sur un coffret double avec, bien sûr, Footloose 2. Ça s'appelle Footloose Movie Collection. Donc, vous avez le remake et l'original sur le même coffret DVD. Du côté de la version 2011, eh bien, le film est également disponible en DVD et en Blu-ray, que ce soit en français ou en anglais. Vous avez bien sûr, comme je vous disais tantôt, le Two Movie Collection de Footloose avec l'original et le remake. Et il ne faut pas oublier aussi que le film de 84 est disponible en 4K dans ce qu'on appelle une édition Steelbook. Donc, c'est un couvercle en métal. Ça également, c'est quelque chose qui est disponible en Blu-ray Disc. Malheureusement, vous n'y retrouverez que la version anglaise à l'intérieur.
Now, just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully, and come back soon. Drive away your worries and cares at this drive-in theater.
where you will see the finest motion pictures of all time soon to be released. Drama, comedy, adventure, excitement, something for everyone. Here's a brief glimpse of some of the truly fine pictures we've scheduled in the near future.
Close look at that. One, a hoodlum friend. Two, a professional hit.
How do you know it was a professional hit?
Let me tell you something, Axel. These guys out in L.A., they're all independents. They go out, they do their thing, they don't ask anybody's permission. And you're gonna go out there to try to find Mikey's killers? Axel, you're out of your league.
Checking in today, sir?
That depends. Is this hotel real expensive?
That's $235 a night.
Fine. What's the charge?
Possession of a concealed weapon, disturbing the peace.
Disturbing the peace? I got thrown out of a window!
This is the cleanest and nicest police car I've ever seen in my life. This thing's nice in my apartment.
Everybody freeze!
Phil!
Get your hands on the table!
Phil! What's wrong, man? What's all the hostility, Phil?
Get back, man.
What you doing with all this gun, man?
I want you to get back.
Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, coming from Paramount.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.